Chapitre 9. Dans la jungle. Dites donc, Dieudonné, après de telles séances de vase, je ne comprends plus pourquoi vous avez fait tant de bruit hier, quand cet odeur Riouvidor nous aspergea d'une simple misérable boue. Et sans doute que je redeviens civilisé. Oh, pourtant, je n'ai pas fini dans mon histoire de vivre comme une bête. Je crois même que cela commence. Oh, vous pouvez toujours faire monter du vermouth. C'est bon contre la fièvre et nous avons encore longtemps à causer. Nous voilà donc dans la forêt vierge. À quel endroit? Du côté du haut des grades des Cannes, à 20 kilomètres de Cayenne. D'abord, nous dormons. Nous dormons toute la nuit, tout le jour suivant, toute la deuxième nuit. On s'était fait un lit de feuilles mortes. C'était du luxe. C'est aussi bon qu'un matelas d'hôtel, vous savez. Alors vous ne mangiez pas? On se nourrissait. L'homme peut manger ce que le singe mange. On les observait. Vous pouvez imaginer comme c'est drôle de regarder vivre les singes. Ainsi, ils craignent l'eau. Savez-vous comment ils passent les criques? Eh bien, le plus fort s'attache à une branche haute, un autre se pend après le premier, et tous se pendent à la suite, de manière à faire juste la longueur de la crique, 10 mètres, 20 mètres, cela dépend. Jamais ils ne se trompent. Et quand ils sortent le nombre qu'il faut, ils se mettent à se balancer, le singe de queue attrape une branche de l'autre côté de la crique, le pont suspendu est établi, toute la tribu le traverse, dos en bas, et quand elle a passé, le singe de tête, celui qui soutenait la guirlande, lâche tout, et le pont, ainsi tal détaché, franchit le redouté. Mais nous n'étions pas ici pour regarder jouer les singes. Le matin du second jour, nous décidons d'agir. Jean-Marie connaît la région, il a travaillé sur la route. Il part à la recherche d'êtres humains. Moi, je reste au point. Je fais bien remarquer à Jean-Marie que ce point est nord. Ah, vous aviez une boussole. Non, pas besoin. La mousse nous guide en forêt. Direction nord, mousse sur les troncs. Rien, direction sud. Je reste seul. Je ne perds pas mon temps, j'organise un petit buffet froid. Ce que les singes jettent à moitié mangé, je le ramasse. N'oubliez pas que le singe est gaspilleur. Ce sont des fruits sauvages, des feuilles, des racines. C'est assez bon. Mais si Jean-Marie ne trouve pas de secours, on ne mourra pas de faim et de soif. Oh, nous sommes près d'une crique. À la nuit, j'entends qu'on froisse les feuilles. Ah, c'est Jean-Marie. Il revient, flanqué de deux jolis cocos. Jean-Marie me fait un signe qui veut dire « Ne pas trouver mieux ». Chacun porte une musette pleine de choses à manger. L'un est Robichon, dit pirate, ravitailleur dévadé, ancien maître de danse à Toulouse. L'autre s'appelle Blaise, dit Jambe de laine, trimardeur de profession. Ce sont des interdits de séjour, deux libérés. Bon, ils n'ont pas une figure que j'aime bien. Pirate est habillé proprement, mais il est pauvre. Jambe de laine est lamentable. Par l'étau de ses hardes, je vois son sous-vêtement de tatouage. Nu-pieds, hirsute, barbe incolore, plus de dents. Sur le chef, une calotte informe qui sans doute fut un chapeau. Pirate porte beau. Jambe de laine approuve tout ce qu'il dit. Ils acceptent de nous ravitailler, mais comme ils risquent gros, qu'ils ont à se défiler comme des chats-tigres, que tout est si cher, ils exigent 100 francs tout de suite, afin de remercier Dieu qu'ils se soient eux, pirates et jambes de laine, trouvés sur notre chemin. Vous pensez, ajoute pirate, je devrais être à Toulouse à l'heure qu'il est. Je suis libéré depuis 8 ans, alors si j'avais pu depuis tant d'années mettre 800 francs de côté, pour m'offrir le retour dans la belle France, vous ne m'auriez pas rencontré. Ça se paye, cela. Ils demandent ensuite 100 francs chacun de gratification quand ils auront trouvé le pêcheur pour nous conduire à l'Oyapock. Ah, vous rêviez déjà de recommencer. Pardi. Jean-Marie est breton, moi je suis lorrain, deux têtes de buis. Depuis, nous paierons double le prix des vivres. Quant aux gratifications, dit Pirate en arrondissant un geste élégant, je les laisse à votre générosité. Jean-Marie, indigné, lui dit, « Eh, fous le camp, j'en trouverai d'autres, je crains la délation. »« Marché conclu, fis-je. » Alors, Pirate, oh, « c'est bien pour vous que je le fais, c'est le devoir d'un homme d'aider les évadés. Si j'étais riche, je vous souviendrais pour rien. Je paye. » Ils vident leurs musettes, pain, hareng sort, beurre salé, chocolat, tabac, allumettes. « Venez, disent-ils, on va vous présenter près d'ici à une vieille négresse solitaire qui sera bonne pour vous, la bonne vieille. » Un carbet dans la forêt vierge. Une femme noire qui paraît avoir un grand âge broie du manioc. Elle lève la tête et son sourire dans une face laide est très joli. Elle nous plaît. « Asseyez-vous, petits enfants, dit-elle. » Pirate et Jambes de bois, laine sont partis. Elle nous fait une boisson chaude avec des herbes de sa connaissance. Nous lui racontons notre pauvre histoire. Elle nous écoute en se saignant, signant souvent. Et quand nous arrivons à la fin de Venay, elle pleure de vraies larmes de pauvre vieille. Ce qui l'étonne, c'est que le Romain qu'un ne nous ait pas mangé sur le radeau quand notre tête seule dépassait. C'est Dieu et notre Saint-Père Fabre de Cayenne qui vous ont protégé, dit-elle. Je lui mets un peu d'argent dans la main, elle refuse. Il faut insister. Elle le prend, puis à voix basse. Méfiez-vous de Pirate, il est capable de tout. Jambes de laine n'est qu'un idiot exploité par lui. Il est 8 heures. Les singes rouges hurlent dans la nuit, couvrant tous les autres bruits d'insectes, d'oiseaux, de reptiles, de mammifères et de végétaux. Vous avez entendu le singe rouge? Il a un sifflet à roulette dans la gorge, l'animal. On croirait que 100 hommes poussent le cri de la perdition, mais ce n'est qu'un singe, pas plus gros qu'un bébé. La bonne vieille négresse installe des nattes de feuilles de cocotier. Ce sera notre lit, un paquet de fibres sèches pour oreiller. Elle nous garde pour passer la nuit. Une branche verte jetée au feu fera un boucan contre les moustiques. Qu'il fait bon! Et au petit jour, elle nous réveille. Elle nous apporte quelque chose de chaud à boire, comme une maman française à ses garçons. Puis elle nous reconduit à notre cachette. En route, elle nous en montre plusieurs autres en cas de danger. Je vous ferai signe, mais venez jamais chez moi tout seul. Elle ne craint pas les surveillants chasseurs d'hommes, mais les arabes mouchards qui marchent pieds nus et que l'administration dresse comme des chiens pour dépister les évadés. Eh bien, c'est l'époque, dit Dieudonné, où je passais pour mort à Paris.
Chapitre 10. Nouveau départ.
Savez-vous combien de temps nous sommes restés dans la forêt, à vivre comme des bêtes de pays chaud? 1 mois. Nous avions découvert un arbre immense que protégeaient des bambous et des lianes. Nous étions fait un lit de feuilles dans ses branches, et nous surprenions tous les secrets de la jungle. La goinfrerie du tapir, qui, sitôt réveillé, se mettait à avaler des fourmis, la pitrerie des singes. Ils étaient intrigués, ceux-là, de nous voir dans leur royaume. Ils ne cessaient de nous regarder sans sous le nez. Tout ce que nous faisions, ils l'imitaient. Je jouais de la trompette avec mon doigt, ils en jouaient. Je fuyais, ils dégringolaient pour ramasser le mégot. Et la tête de famille chez papa et maman, Puma, qui corrigeait petit Puma à coups de croc dans l'arrière-train. Oh, si j'avais eu une machine à tourner les films, j'en aurais gagné de l'argent et j'aurais maintenant un joli complet pour me promener avec vous dans Rio de Janeiro. Les soirs, on descendait afin de recevoir la visite de Robichon, dit pirate, ex-maître de danse à Toulouse. Il n'a jamais connu notre installation dans l'arbre. C'était notre refuge secret contre les traîtres, les mouchards, les chiens de chasseurs d'hommes. Pirate nous entretenait des rumeurs de Cayenne. Et Meneuil, de verre Brideau, avait parfaitement été arrêté dans Rémire. C'est la soif qui les avait fait prendre. Il y a des gens qui ne savent pas souffrir le temps qu'il faut pour réussir. Pauvre Meneil, hein? C'était sa cinquième. Et il chantait avec tant de confiance à la proue de la pirogue. Jean-Marie et moi, nous passions pour mort. Nous nous étions, paraît-il, enlisés avec Venet. Seulement, disait Pirate, il faut confirmer la légende. C'est bien de la part des copains d'avoir dit ça. Mais ce que je fais est mieux. Et que fais-tu? Mais je vous enlise, chers camarades. À tous les transportés, je débite des pharos ici sur votre supplice. Toi, Dieudonné, je te fais périr en hurlant. On entendait tes cris jusqu'au degrad de Cannes. Allez, donne-moi 20 francs. Alors, c'est tapé, n'as-tu pas honte de saigner de misérables? J'ai honte, faim et soif, allez, donne 20 francs ou je te ressuscite. Et Pirate trouvait des arguments de diplomate pour nous empêcher de chercher asile ailleurs. Il avait déjà tout engagé, tâté le pêcheur, préparé les voies de la liberté. C'est ainsi qu'il s'exprimait. Il nous apportait des preuves innombrables et incontrôlables de sa bonne foi, de son dévouement jusqu'à terre. Et Jean de Laine confirmait tout. Jean de Laine, demandait Pirate, est-il pas vrai qu'hier j'ai crié devant un surveillant: Oh Dieudonné, le malheureux, crevé comme ça! C'est vrai, disait Jean de Laine. Est-ce pas vrai que je me suis déjà mis en rapport avec le plus habile pêcheur des mers de Cayenne et qu'il s'appelle Célestat? C'est vrai. Allez, donne-moi 30 francs. Et il restait 2 jours parfois sans nous ravitailler. Il buvait notre pauvre argent chez un Chinois. C'est alors que nous mangions avec les singes. La bonne vieille négresse n'osait plus nous recevoir. Le bruit avait fini par courir à Cayenne que nous n'étions pas morts, mais cachés dans les environs. Des Arabes rôdaient près de notre retraite. Nous ne fûmes bientôt plus en sûreté que dans notre arbre. Nous y vécûmes 28 jours, ne descendant qu'à l'heure où Pirate devait venir. Nous y grelottions de froid quand il pleuvait, et quand il faisait beau, les moustiques nous suppliciaient. Et comme si nous étions déjà des morts, les vers macaques nous mangeaient. J'en ai eu 12, et les fourmis flamandes. On a souffert. Pourtant, notre torture était surtout morale. La confiance en Pirate s'en allait, l'argent aussi, l'espoir. Et le 30e jour, jour compté un à un, Pirate apparut accompagné d'un noir. Enfin, salut, dis-je au nègre. Il s'appelait Strong Deville, il était de Sainte-Lucie et connaissait la mer depuis les Antilles jusqu'au Brésil Sud. Il avait déjà 3 forçats. Son prix était de 800 francs. Pirate, dis-je, tu vas aller à Cayenne cette nuit, voici une lettre. Tu frapperas à cette adresse, on te remettra 1 000 francs, 50 pour toi. Et je dis au noir: Entendu, quand? Pirate répond: Demain à la nuit, Strong et moi, nous vous attendrons dans le carmet de la bonne vieille. Tu donneras 100 francs à Jean de Laine, 100 francs à moi, plus ces 50 promis tout de suite, petit Dieudonné. 7 heures le lendemain. Jean-Marie et moi, nous sommes dans le carmet. La vieille panse les plaies de nos pieds. Du Bowie? Ah, ce sont les trois compagnons, trois têtes inconnues. On est 7 000 au bagne. Pirate et Strong suivent, Jambe de laine suit. Payez, dit Strong. Pirate me remet les 1 000 francs. Je paye. Paye, dit Pirate, tendant la main et montrant Jambe de laine. Je paye. Les trois s'appellent Dunoyer, meurtre, Louis Nice, assassinat, et Tivoli, dit le Calabrais, meurtre. Malade, la femme du nègre n'avait pas pu l'accompagner pour ramener l'argent. Ainsi partait-il lui-même pour Cayenne. Il avait promis d'être de retour à minuit. Il ne vint pas. Le lendemain non plus. Ah, nous étions de brillants individus. Volés par Strong, dénoncés par Pirate. Plus d'argent, la pluie, la faim. À la nuit, je prends le cabaret et lui dis « Allez, tant pis, Pirate doit être chez son chinois, allons !» Il y était. Nous le sommons de nous conduire d'urgence chez Strong, mais il était saoul. « La nuit prochaine, dit-il, nous retournons dans la forêt, il pleut. Le lendemain midi, j'entends un bruit. Le haut des taillis remue. Un arabe passe sa tête, me fait signe d'approcher. J'ai un mouvement de recul, il insiste. J'y vais, les compagnons me suivent. « Vous êtes dénoncés, nous dit-il. Je suis chargé de repérer votre refuge. D'autres arabes cherchent ailleurs. Pirate vous a vendu, mais toi, Dieudonné, tu as sauvé Azoug. » C'était le marabout des forçats musulmans. Il était en train de se noyer un jour aux îles du Salut. Alors nous, les Arabes, nous ne dirons pas où vous êtes. Je suis venu te prévenir. Jambe de haine effilée, allez, fuyez! Nous ne sommes plus que des bêtes de brousse traquées par les chasseurs d'hommes. Nous tombons sur des mouches sans raison. C'est pire qu'un essaim d'abeilles. Nous approchons heureusement d'une savane inondée. Nous y plongeons. Elle nous laisse. Louis Nice connaît la demeure de Strong. Il ira seul. Nous l'attendrons de l'autre côté de Cayenne. On se sépare. C'est la nuit. On traverse Cayenne. Depuis 36 jours, je n'ai plus revu la ville. Pas un casque de surveillant. Je suis déjà devant l'église, mes narines se pincent tellement j'ai peur. Mais la chasse est commencée, nous sommes forcés. J'arrive place des Alpes-Salmistes, et à droite, l'hôpital, quelques lumières, à gauche, la poste. Un blanc sort, je me cache. Des urubus se couchent, des drapeaux buffles beuglent. Silence, obscurité. Mélancolie, la brousse, Cayenne est traversée. À 8 heures du soir, Nice arrive au rendez-vous. Il sort de chez Strong. Il n'y a trouvé que sa femme. Son mari est dehors et nous attend depuis 2 jours. La femme avait conduit Nice au rendez-vous. Et maintenant, nous suivons Nice. 2 heures de marche. Une crique. Strong est là, assis sur son fusil, fumant sa pipe. Il rit. Vous avoir payé, moi venir, moi pas voleur. Mais l'autre soir, il avait rencontré Sarah. Il avait de l'argent, le nôtre. Alors, Sarah, ta fia, balle, doudou, et puis l'amour. Une nuit d'amour, quoi, pendant que nous l'attendions. Le lendemain, à son réveil, il apprend que nous sommes vendus. Il charge Pirate de nous donner ce nouveau rendez-vous. Bref, nous avions retrouvé le sauveur. Le nègre se lève, étend le bras, désigne une ombre sur l'eau, la pirogue. Chapitre 11. Vive la belle des belles. La pirogue. Oh, le pareil à l'autre qui sombra. Bah, elle s'appelle la Sainte-Cécile. Strong dit « C'est un vrai poisson. » Il ajoute « par Monsieur Diable, par Monsieur Diable, je vous conduirai à Oyapock. On attend que le bon temps emplisse la crique. Akoupa, lui aussi, avait juré, dis-je. Akoupa, très vilain petit singe noir, malin des savanes, rien du tout de bon. Strong prend cher, mais Strong arrive, alors, fit-il. Il est 11 heures de la nuit. La pirogue est belle, pagaie de rechange, 2 ancres, chaîne solide, corde neuve, un réchaud, du charbon de bois, des provisions. Moi, homme de conscience, dit Strong. Nous embarquons. Il voit tout de suite que Jean-Marie et Naïs sont des meilleurs à la voile. Les autres prennent les pagaies. Maintenant, dit Strong, pas les bas. Le son s'entend loin sur l'eau. On connaîtrait vos voix de voleux, de assassins. Nous arrivons devant le Mahuri. Toujours la petite lanterne du dégrade des cannes. L'aube, nous hissons la voile. Strong est beau. D'une main, il tient la corde, l'autre le gouvernail. Il tire des bordées en sifflant, il zigzague avec science. Nous avançons sur père et mère. J'aperçois l'endroit où nous avons reculé avec Akoupa. Jean-Marie le voit aussi et le regarde. Et tous deux ensemble, subitement, « Oïs, garçon, c'est là, Oïs !» Toutes nos forces et toutes nos âmes sont dans les pagaies. Nous passons. « Merci, mouché diable !» dit Strong. Et il assoit la pirogue sur la vase. « Mais pourquoi ?» demandons-nous effrayés. Il mouille les 2 ancres, roule la voile et dit « Strong connaît !» On ne repartira que le lendemain. La nuit vient. Oui, c'est là exactement que nous avons fait naufrage. Il ne reste rien de nos épaves. La vase a tout avalé. Rien. Nous sommes sur le tombeau de Venet. Duez où sa femme allume là-bas, sur le ril, leur lanterne phare. Au fond, le vent qui se lève arrache au palétuvier des cris de fièvre et d'abandon. Un tronc apparaît dans la vase. Il ne va pas lever les bras, au moins, celui-là. Eh bien, il faut le dire, mon cauchemar ne dura pas. Un tel désir de liberté bouillonnait en moi qu'il chassa le passé. La nuit était belle, il y avait clair de lune. Strong dormait comme un bon saint noir. L'espoir submergea le souvenir. Puis on se réveilla, c'était encore la nuit. Une lanterne brillait à l'horizon. « La cricane, dit Strong, là-bas où fixiez des anges. »« Fixiez des anges, mais je connais ça. »« Ben, je pense bien, vous l'avez vu à l'île Royale. » Voilà comment il faisait, c'était un amis à moi-même. Il prenait 5-6 voleux ou assassins pour l'évasion. Des Arabes surtout. Ce sont les Arabes qui l'aimaient le mieux. Tout le temps, il me demandait s'il n'avait pas des Arabes à lui repasser. Et il les conduisait jusqu'ici-là, ici même devant la lanterne. Amis, leur disait-il alors, il faut débarquer pour faire de l'eau. Ils débarquaient, et quand les Arabes étaient bien jusqu'au ventre dans la vase, Bixier, bon ami, il prenait un fusil comme celui-là. Strong fouille le fond de la pirogue et ramène son fusil. J'ouvre les yeux, dit Dieudonné, et je me tiens prêt. Comme celui-là, reprend le nègre, et pan, il les tuait. Strong remet son fusil à sa place. « Oh, on a tous eu chaud, vous savez, une seconde. » Alors quelques-uns de ces Arabes se sauvaient en suivant la crique. Mais là, juste à la lanterne, il y a une fourche. À cette fourche, Bixier des Anges avait des complices, et les complices achevaient le travail. Ils ouvraient le ventre des évadés et leur volaient le plan. C'est là où cela se passait. Regardez bien, et Dieudonné reprend. Oui, ce bixier des anges a été arrêté, jugé et condamné à perpétuité. Il vit maintenant à Royal parmi les compagnons de ceux qu'il tuait. Et que lui disent ses compagnons? Rien. Au début, l'administration, qui pourtant connaît son monde, redoutait le contact, l'avait isolé au sémaphore. La précaution n'était pas utile. Je l'ai vu dans une case avec 100 autres, dont le frère d'un homme qu'il avait assassiné. Tous jouaient ensemble à la Marseillaise, le bourreau, les victimes. Le bagne, c'est la liquéfaction de tous les sens. Bah, un coup de vermouth, lui dis-je continuellement. Alors le matin arriva, la colline de Montjoly, la première sortie de la nuit. On a pagaille, nous crie Strong. Oh, il fallut voir notre entrain. La faute d'un coupable est d'avoir passé la barre à la voile et de nuit. Faut travailler le jour et à la main. Allons! La pleine mer est profonde, Strong compte un, deux. Dans le danger, les hommes ne demandent pas à être libres, ils veulent se sentir commandés. Strong se révèle un chef, nous avons du bonheur à lui obéir. Nous pagayons, pagayons, pagayons. L'eau glauque s'éclaircit, on n'aperçoit bientôt plus que des taches sombres. Elle devient limpide. C'est la pleine mer. Strong regarde et dit: C'est fait, nous avons passé la barre sans nous en apercevoir. Nous hissons la voile. Le Calabrais s'approche de Strong et l'embrasse. Sur le visage, la joie chasse le bagne. Et tous à la fois, comme des fous, des imbéciles, nous nous mettons à hurler en plein océan. Vive la belle des belles, la plus belle des plus belles!
Chapitre 12. 7 longs jours. 6 jours exactement que nous sommes en mer. Le vent est fort, la vague méchante. La pirogue, couchée sur sa droite, bordage au ras de l'eau, avance. Nous la vidons à coups de calebasse. Strong est beau. Pipe aux dents, il manie tout, la voile, la barre. Nous chevauchons les vagues, nous les descendons, sans divier jamais dans notre route. Ventez, 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 Sainte-Cécile, Bouchet, diable, allume ma pipe calabrais. Et plus il vente, plus il rit. Il faut savoir que lorsque les Noirs croient le diable dans leur jeu, ils ne doutent de rien. Voici la Pouague, un des fleuves de Guyane. Nous apercevons le mariage de son eau jaune avec la mer. La Pouague, où il y a de l'or. Et puis une crique. Il s'y dirige, latin, ancre. Après, il dit: Strong va pêcher. Il jette une ligne de fond. 30 minutes après, 20 mâchoires rongissent dans la barque. C'est bon, le mâchoiron, fait Dieudonné. Ainsi appelions-nous le directeur du bagne de votre temps, le très honorable monsieur Herménégilde, tel. Il avait les yeux comme ce poisson, hors de la figure. Mais le poisson est bien meilleur. Maintenant, Strong dit: Au nom du diable, fais la cuisine. Et il allume le réchaud. On mange. Cette crique, reprend le nègre, s'appelle la crique des déportés. Vous ne saviez pas? Je vais apprendre à Mouchet Blanc la géographie, moi, Mouchet Noir. Et tout en mangeant, il compte. Quand j'étais petit enfant, petit, je venais là avec des aînés, entrepreneurs d'évasion. Alors les grands, ils laissaient la mouche forçat. Ils disaient: Oh les amis, cherchez de l'eau. Et mouche forçat descendait et la pirogue s'en allait. Et Mouchet Forçat, il crevait dans les vases et les polétuviers. Seuls les courageux se sauvaient et gagnaient les hauteurs là-bas. Ce furent les premiers bûcherons de Bois de Rose, les premiers chercheurs d'or de la Plouague. Oh, j'étais petit, moi, tout petit. On regarde Strong, il comprend notre pensée, il dit: L'humanité a fait progrès pendant que moi, devenu grand.
Il lève les ancres. Nous pagayons. 4 heures après, pointant le doigt vers un sommet, Strong dit « Montagne d'argent !»« Montagne d'argent !» me dis-je. « Ah, oh, quel souvenir !» Moi aussi, c'était quand j'étais petit, petit. J'allais à Nancy faire les commissions de ma mère. Elle me disait « Tu rapporteras du café de la montagne d'argent, c'est le meilleur. » Et la voilà. C'est bien elle, si loin et si près. Dans ce temps-là, c'était les jésuites qui la cultivaient. Elle rendait. L'administration lui succéda. Depuis, dit Strong, Montagne donne rien de café. Elle est devenue de bronze, puis de bois, puis de liane, puis d'herbe folle. La mer est grosse, il pleut, nous traversons un terrible endroit. Strong lutte magnifiquement. Louis-Nice et le Calabrais vident la pirogue. Jean-Marie est barreur. L'autre et moi, nous faisons le balancier pour empêcher la barque de chavirer. Strong gagne une anse et crie « Mouche diable, protège ton fils, mouche Strong !» On ancre, on prépare à manger. Tout à coup, un vent subit s'engouffre dans l'anse et des vagues chargent notre pirogue. Elle oscille terriblement. Le réchaud, notre marmite sont culbutées. Strong blanchit. « C'était un nègre, mon vieux. Alors vous n'avez jamais vu un nègre blanchir quand il y a de quoi ?»« Pagayez, pagayez » crie-t-il. Jean-Marie lève l'ancre. Il était temps. Une tornade passait arrachant les palétuviers, jetant des épaves contre la pirogue. Et les nuages couraient si près de nos têtes qu'on aurait pu les toucher de la main. Jean-Marie se dresse comme s'il avait quelque chose à dire à la nature. « On s'en fiche, crie-t-il, si on coule encore cette fois, on recommencera une troisième. » Et, parlant toujours à l'invisible, « Et une quatrième. » « À quoi cela servait, je vous le demande. Enfin, je lui dis de s'asseoir et d'obéir. » Il répond, « Bien, patron. » Un quart d'heure après, le calme était revenu. On ancre. Alors, comme nous regardions devant nous, on voit arriver un nouveau nuage. On suit la vole. Ce sont les moustiques des palétuviers voisins. Ils nous ont découverts et viennent torturer la seule proie qu'ils aient, les évader. Ils tombent sur nous. Notre bois est mouillé et nous ne pouvons pas allumer de boucan. Ils nous recouvrent. Vaincu, Jean-Marie s'abat dans le fond de la pirogue. Il pleure de souffrance. Il n'a que 28 ans. Et tout en laissant manger, il répète comme des litanies « Oh, misère! Oh, misère! Oh !» Et voici le matin du 7e jour. « Aujourd'hui, nous dit le noir, vous verrez Brésil. » Les cœurs battent. Nous le regardons dans les yeux comme pour mieux échanger notre joie. « Tu es sûr, on le verra ?» demande Jean-Marie Armstrong. « Pas le boucher diable. On me fout de la paix avec ton diable. Je te demande si on arrivera, oui ou non. »« Tais-toi, » dis-je à Jean-Marie. Il se tut. « Pas de vent, nous allons à la pagaie. Il y a beaucoup d'écueils par là. La journée est difficile. On ne mange pas. » Pour mon compte, j'ai l'impression que je ne mangerai jamais assez vite et que je perdrai trop de temps. La chaleur est si gluante qu'une lassitude chargée de sommeil nous pénètre. La pagaie tombe de nos mains. On n'en peut plus. « Là, là, dit Strong, regardez, Cap Orange, Brésil !» Le sang me remonte au cerveau. Je saute presque à la figure du nègre. « Que dis-tu, le Brésil ?» « Ouais, le Brésil, Cap Orange, le Brésil. »« À la pagaie, petit frère. Oh, je n'ai pas besoin de commander deux fois. Tout le monde est réveillé. »« C'est le Brésil, camarade. » Quand je réfléchis maintenant, je me demande ce que nous trouvions de beau à ce Cap Orange. J'étais aussi lugubre que le reste. Ah, cet instant, je vois danser entre les arbres du Cap-Orange le double des créatures qui m'attendent en France. Je le vois. Jean-Marie dit « Madoué ». L'autre, oh, je n'ai jamais bien su son nom, parle d'une petite amie qu'il a rue des Trois Frères à Montmartre, qu'il avait, tout au moins. Nice et le Calabrais retournent du coup à leur origine. Ils baragouinent l'italien. Quant à Strong, il fume sa pipe. « Vante, vante, Sainte-Cécile, vante, mouche et diable !» Cette fois, on ne se moque plus de lui. Nous voyons la gueule de l'Oyapock. Le vent se lève. L'Oyapock est large comme une mer. Nous l'abordons. Il nous avale par une sorte d'espèce de courant secret. La pirogue vole. L'eau entre, nous la sortons. L'autre et Nice quittent leurs pantalons pour être prêts, en cas de danger, à continuer à la nage. Une saute de vent déchire notre voile par le bas. Dans l'orage qui commence, elle claque comme un drapeau. Un quart de seconde, je revois la scène de notre naufrage. Mais non, Jean-Marie rattrape la voile, la reficelle. Oh, bravo! Et pendant 2 heures, nous courons sur l'Oyapock, déchaîné, glacé de froid, d'espoir, de peur et de joie. On arrive, ces lumières là-bas, c'est De Monti, De Monti, la première ville du Brésil. C'est beau, oh, c'est beau, disions-nous tous ensemble. Il fait nuit noire, nous avons plié la voile. Nous allons maintenant à la pagaie, évitant tout bruit de choc dans l'eau. Une éclaircie dans les palétuviers. Quelques maisons. Ah, ceux qui n'ont pas entendu Dieudonné prononcer à cette minute ces deux mots, quelques maisons, n'entendront jamais tomber du haut de lèvres humaines la condamnation du désert. Strong aborde, nos pieds touchent terre. Silencieusement, sans mot d'ordre, nous, les 5 forçats, nous embrassons le nègre. « Adieu, nous dit-il, comme mouche et diable vous protège !» Chapitre 13. En pays perdu. Le Brésil, oui, mais avant tout, l'endroit où nous sommes s'appelle pour nous l'inconnu. Dieudonné se ranime à ce moment du récit. Il veut me faire sentir que l'évasion d'un forçat consiste à passer d'un mauvais cercle dans un cercle redoutable. « Oh, c'est pas fini !» dit-il. « Nous savions qu'une chose. Le nom du lieu où nous étions, oh, cela, oui. Pas un bagnard qui ne l'épelle, De Monti. » Pour mon compte, je rêvais à De Monti depuis 15 années. Eh bien, nous y sommes. 11 heures du soir, nuit d'encre, 20 maisons de bois dans la forêt, silence tragique. Tout à coup, nous nous serrons les mains, les 5. Jean-Marie, joignant les siennes, prononce « De Monti !» Nous répétons « De Monti !» Oh, la joie tourne en nous comme la tornade sur la mer. Jusqu'ici, nous devions nous cacher de tout. Des chiens de chasseurs d'hommes, des gens. Là, nous n'avons plus rien à craindre. 20 maisons, mais pour 7 000 hommes, c'est la ville la plus grande du monde, c'est la liberté. Nous restons bien là 3 heures, sur place, sans bouger, parle en bas, morts de froid, mais si heureux. Oh, il faut pas croire, ajoute-t-il, que le bonheur ne soit fait que pour les heureux. Enfin, nous nous mettons en marche. Il est 2 heures du matin, exactement. La pendule de l'église vient de sonner. Si par hasard l'église était ouverte, on irait y dormir. Nous avançons sur le village où l'église est fermée. À côté, un hangar délabré avec une lanterne au fond. Entrons. C'est une étable. Des vaches couchées lèvent la tête. Quel œil accueillant elles ont! Un gros chien nous regarde, vient nous flairer, se frotte à nous. Il n'aboie pas, il remue même sa queue. Depuis que nous avons quitté la vie pour le bagne, nous n'avons jamais eu de réception pareille. Chacun s'étend contre une vache pour avoir chaud. La mienne était rousse et bien bonne. À l'aube, un bruit. On se réveille. Un homme fort gros nous regarde. Il a deviné qui nous étions. Il hoche la tête et s'en va. Nous ne bougeons pas. L'homme revient, portant une énorme marmite de riz et de giraumont. Cela fume. Oh, nous croyons que c'est Saint-Vincent de Paul. Nous sortons sur la petite place. Les femmes, les jeunes filles, les hommes, les enfants nous entourent. Nos mines, nos loques ne leur font pas peur. Les femmes nous montrent du doigt la direction de la Guyane. Nous faisons oui de la tête. Alors elles se signent en levant les yeux au ciel. Et là, je dois dire que Dieudonné ferma ses paupières et s'endormit. Il était toujours dans ma chambre, assis dans un fauteuil d'osier. Je supposais d'abord qu'il se recueillait, mais quand je lui dis « Eh bien, après !» il ne broncha pas. Je sortis et revins 2 heures plus tard. Il n'avait pas bougé. Je repris ma place devant la table. Il se réveilla. « Savez-vous, me dit-il, sans s'être aperçu du hiatus, que toutes les femmes là-bas sont magnifiquement blondes et coquettes ?» Coiffé à la garçonne, rouge aux lèvres et fumant la cigarette. Au grelot de fièvre, hein. Elles nous apportèrent de la quinine. Elles nous tâtèrent le pouls, le front, tout naturellement. Et nous étions sales. Elles nous donnèrent des bols de lait chaud. C'était le paradis. Alors les douaniers, ah oui, ceux-là. Comment cela, non, les braves gens? Ils connaissent d'avance notre histoire. Ils savent bien que nous n'avons rien à déclarer. Ils nous disent que les mines d'or de Carcoen ont repris l'exploitation et que l'on peut aller là. Je remercie tout le monde. Et Jean-Marie entre dans l'église faire une prière. Louis et le Calabrais disent qu'ils vont partir de leur côté. Adieu. Et nous restons, Jean-Marie et moi, et l'autre. Et pourquoi l'appelez-vous l'autre? Bon, on n'a jamais bien su son nom. C'était un pauvre petit, bête et malheureux. On l'appelait l'autre parce que il disait toujours à propos de tout, c'est la faute de l'autre. L'autre, c'était celui qui l'avait tué après une orgie de cidre dans une ferme du côté de Lisieux, je crois. On compta notre argent. Moi, 365 francs guyanais et 20 grammes d'or. Jean-Marie, 105 francs et 15 grammes d'or. L'autre, 7 francs 10. Allez, on te ramène jusqu'aux mines. Oh, merci, Jean-Marie. Merci, Dieudonné. Fait-il en s'inclinant devant nous, comme si nous étions des évêques. Les douaniers nous trouvent un canoë pour Carcoen. Coût 100 francs et 20 grammes de poudre d'or. On embarque. Oh, je vais vous défiler rapidement la suite de cet épisode, fait Dieudonné, le malheur étant toujours le malheur. Alors, on est sur le canoë avec les 6 marins et le patron. Nous tournons le cap orange. Là, on s'arrête pour acheter du poisson salé aux Indiens à cheveux plats. On repart, on longe la côte. Pas l'étuvier. Oh, cela, si j'en revoyais à présent, je crois que je me mettrais en colère et que je me cracherais dessus. On rencontre des petits pois habités qui s'appellent Coswin, Cassipore. Et le surlendemain du départ, nous voyons quelques maisons. On demande ce que c'est. Le patron dit Carcoen. Ah, mais c'est là où nous allons, piquer dessus. Non, fait le patron qui continue sa route. On se fâche. Le patron déclare que lui se rend à Amapa, qui nous a pris pour gagner de l'argent et qui ne s'arrêtera pas à Carcoen. Et où allions-nous trouver du travail maintenant? Le matin, le canoë entre dans une crique vaseuse. Au fond, un hangar et six nègres nus qui scient les planches. Le patron parle à l'un des hommes, longuement, et nous fait signe de descendre. Je parie mes grammes d'or que nous aurions été tués comme des lapins par les sieurs de long si nous étions descendus. C'étaient des Indiens d'œil d'oiseau, les plus mauvais. Nous refusons, tout le monde crie, et nous crions plus fort. « On n'est pas des Arabes, dis-je. Cette fois, vous avez affaire à des Français. » Et nous nous mettons en position de défense. Le patron nous déposera à Amapa. La confiance est partie. La nuit, nous veillons à tour de rôle. Au matin, c'est une nouvelle crique vaseuse noire, un vrai paysage de crime. Amapa. Mais que faire là? Patron, dis-je au Brésilien du canoë, 200 francs pour vous descendre plus bas. Et il veut aussi 15 grammes d'or. Tout ce que l'on a, quoi. Mais une vaca vigia sur l'Amazone. De là, nous pourrons gagner Belém. Belém. 250 000 habitants, le grand phare de tous les bagnards. J'accepte. Et il dit, Manania, demain. Davanda tarde, de demain à soir. Cela durera 6 jours. Mais j'ai vu des sirènes. C'était le 4e jour. On m'avait signalé un campo dans l'intérieur. Nous pourrions trouver de la farine et la gagner en faisant l'âne qui tourne la meule. J'étais le mieux portant des trois. J'y partis. Oh, je savais qu'il fallait traverser la savane, de l'eau jusqu'au ventre. J'entrais dedans. J'allais ainsi depuis 3 heures. Quand je vais venir à moi, de l'eau jusqu'au ventre aussi, des sirènes. Elles avançaient avec tant d'aisance que je m'arrêtais. Elles riaient de mon ébahissement. Elles avaient les cheveux coupés, de la poudre aux joues, du noir aux yeux, des corsages de satin, des colliers d'or ou d'argent. Oh, elles étaient jolies, très jolies. On ne voyait que le buste, tout le reste était dans l'eau, tout. Elles ne se baignaient pas, elles allaient à leurs affaires. « Bon dia !» leur dis-je. Elles parlaient et me renvoyèrent. « Bon dia !» Soudain, je crus en reconnaître une. La jeune fille était si belle qu'elle me rappela subitement, à travers 30 années, la Vierge Marie de la chapelle Saint-Stanislas de l'orphelinat de Nancy, devant qui sœur Thérèse, nous accompagnant à l'harmonium, nous faisait chanter « Ave Marie Stella !» Et Dieudonné redescendit sur terre. Ce fut pour dire, on en voit des choses en évasion.